Merci d'écouter les programmes de Studio Kalongo. Il vient d'être à 17h. Bienvenue à tous dans cette grande édition d'information. Voici les titres. Un conflit a éclaté entre éleveurs et agriculteurs béninois et nigériens dans un village du Bénin. Des centaines d'éleveurs ont trouvé refuge cette semaine à Gaya. Des précisions dans un instant. À Difa, plusieurs structures féminines de la région réunies cette semaine pour trouver des solutions à la sous-représentation des femmes dans les instances de prise de décision. Et dans le magazine Environnement, nous verrons comment les cuvettes et les oasis du département de Bilma sont menacées d'ensablement. Je suis Nafissa Adam Sirfo au micro. Des éleveurs béninois et nigériens contraints de fuir vers Gaya cette semaine à la suite d'un conflit violent opposant éleveurs et agriculteurs dans un village du Bénin. On dénombre une centaine de personnes, hommes, femmes et enfants, suivant le reportage de Fadel Alou.
Suite à un conflit violent ayant opposé des éleveurs et des agriculteurs dans un village du Bénin, plusieurs éleveurs ont été contraints de se déplacer vers Gaya et Gatawani au Niger. L'origine du conflit remonte à une dispute entre un jeune éleveur et un agriculteur qui a rapidement dégénéré. Ousmane Diodi, éleveur déplacé.
L'éleveur voulait passer et l'agriculteur lui a refusé l'aller. De là, il a commencé à lui lancer des lance-pierres jusqu'à 3 coups. Et lui aussi, il a arraché d'une coupe-coupe. Et il s'est rendu à la brigade du Malanville, soi-disant qu'il a commis un meurtre, parce que c'est lui qui est le coupable.
Dans cette bagarre, les éleveurs ont pratiquement perdu leurs biens.
S'ils trouvent que tout le monde a pris la fuite, ils brûlent les chambres, ils prennent les moutons, les chèvres, tout ce qui est bien matériel, c'est par l'aide de d'autres pirouguiers qui nous ont évacués.
Arrivés à Gaya, ils ont bénéficié des premiers soins sanitaires et la sécurité. Roman Moussagani, chef de canton de Gaya, et Bachir Sambo, chef tribu de Gaya.
Ils sont au total 444 personnes, parmi elles des Béninois et des Nigériens. Ceux qui sont arrivés fatigués et ou malades, nous allons leur apporter secours et assistance.
Nous avons demandé aux autorités de nous trouver un site là où on peut les héberger. Comme vous le constatez maintenant, ils sont avec nous dans nos maisons. Juste le temps de passer un moment avant de retourner chez eux.
En bref, hier jeudi 27 mars, le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Tomba, s'est entretenu avec l'ambassadrice des États-Unis au Niger. Au cours de cette audience, Kathleen Fitzgibbon a fait comprendre que son pays a pris acte de la décision du CNSP de dénoncer les accords militaires avec le Niger en annonçant un futur projet pour discuter du désengagement des forces américaines. Aussi, elle réaffirme la disponibilité de son pays à œuvrer aux côtés du Niger à travers la des projets de développement par l'USAID. Toujours en bref, le lundi 25 mars, les députés togolais ont adopté une nouvelle constitution qui instaure un régime parlementaire dans le pays. Ainsi, la République togolaise passe de régime présidentiel au régime parlementaire. Désormais, le président de la République sera choisi pour un mandat unique de 6 ans par le Parlement réuni en congrès. Hier mercredi, craignant que cette modification ne laisse la voie libre à la prolongation au pouvoir du président Faure Gnassingbé, les partis de l'opposition et les organisations de la société civile ont animé une conférence de presse rapidement dispersée par les forces de l'ordre. Retour ici au Niger, plus précisément dans la région de Difa. Selon des études, les femmes sont sous-représentées dans les instances de prise de décision, une situation qui a fait réunir plusieurs femmes de différentes associations et la société civile pour échanger afin de trouver des solutions. Écoutons Mme Bintou Modou, présidente régionale de Congafen, au micro de Abdoulaye Maina.
La femme représente tout. Elle est très astucieuse, avec beaucoup plus d'initiative que l'homme. C'est juste que parfois, on ne lui donne pas cette chance de prouver ce qu'elle vaut. Et même les hommes que vous voyez dehors, ils ont été éduqués par une femme. C'est une femme qui les a forgés. Et c'est encore elle qui leur donne cette chance de sortir et de s'exprimer. Aujourd'hui, même un chef, lorsqu'une situation le préoccupe, il retourne prendre conseil chez une femme pour revenir faire comme si l'idée vient de lui. Donc la femme a des idées, elle a de la connaissance, des astuces et tout. Mais le grand problème, c'est qu'elle n'a pas tellement de chance pour s'exprimer. Et c'est ce qui nous inquiète le plus.
Le groupement Temokom Rayou de Matame est une association féminine qui a recensé 47 familles d'orphelinats qui recevront des dons en vivres et habits pour la fête de Ramadan. Il s'agit d'un geste humanitaire du groupement qui compte venir aux personnes vulnérables. Madame Issouf Rahila Ibrahim, membre du groupement, donne des précisions au micro de Habou Sariki Saleh.
C'est une association qui aide les orphelins que nous avons jugé utile d'instaurer pour aider les enfants dans le besoin. Il y a cela que quand vous observez leur quotidien, ils sont à plaindre et à aider. C'est pourquoi nous avons établi un calendrier du début jusqu'à la fin de l'année sur notre plan d'action. Maintenant, ce que nous avons voulu mettre à leur disposition, c'est du riz, du mil et des vêtements. Et dans notre programme, il y a à peu près 47 ménages que nous voulons aider. Avec ce même appui. L'année passée, nous avons fait ce don à 40 ménages.
En bref, les organisations non gouvernementales et les associations de développement ont obligation de déposer leur rapport annuel d'activité au plus tard le 31 mars suivant l'année d'exécution. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Intérieur, tutelle des ONG et associations de développement. Tout retard de la transmission du rapport est passible de sanctions, a conclu le communiqué. Dans les 10 derniers jours du Ramadan, il y a ce qu'on appelle la retraite spirituelle. Elle consiste pour le musulman pratiquant de se retrancher dans une mosquée pour bien accomplir l'acte d'adoration de Dieu. Mais comment se fait la préparation de cette retraite spirituelle? Suivons le prédicateur Oustaz Haladou Yahya au micro de Hawa Ousmane.
La retraite spirituelle se prépare comme tout acte d'adoration avec une bonne intention. Celle d'aller servir Allah exclusivement dans la mosquée. Mais il y a également la préparation matérielle. Il faut normalement se prémunir de tout ce dont on a besoin pour éviter de déranger quelqu'un. Même si c'est un pain, de quoi manger, son savon. Mais il faut aussi s'assurer d'avoir prévu tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la famille, pour les prises en charge de la famille. Donc, c'est ça qui va permettre aux fidèles de rester adorer Allah avec recueillement, donc sans arrière-pensée ni autre dérangement.
Pendant ce temps, les populations dagadaises font face pendant ce mois de Ramadan à un problème de desserte en eau potable. Cela est dû à la mauvaise gestion des ouvrages hydrauliques, des pannes à plusieurs niveaux, ainsi que de la surexploitation et la pression démographique, a indiqué Zakari Asman, directeur régional de l'hydraulique. On l'écoute au micro de Anissé Karim.
La plupart des ouvrages ne sont pas en gestion déléguée, de sorte qu'il y a un mauvais entretien des ouvrages hydrauliques. On constate dans la région, il y a beaucoup de pannes. Il n'y a pas l'appropriation aussi de la maîtrise d'ouvrage par les collectivités territoriales, comme le souhaite l'État. Beaucoup reste encore à faire. Aussi, la surexploitation de certains points d'eau dans la IRD à la pression démographique, au maraîchage, à l'orpaillage. Aussi, la méconnaissance des textes législatifs qui régissent le domaine de l'hydraulique, puisque c'est un domaine transféré aux collectivités territoriales. L'État réalise les ouvrages avec l'appui de ses partenaires et dans son propre budget. Et dès que l'ouvrage est réalisé pour l'hydraulique villageoise, les ouvrages appartiennent aux communes dans lesquelles se trouvent les ouvrages. L'hydraulique les accompagne pour recruter des délégataires qui versent des redevances à ces collectivités. Et ces redevances serviront à renouveler les équipements et à faire fonctionner le service municipal d'eau et assainissement.
Depuis octobre 2020, l'ANSI, l'Agence nationale pour la société de l'information, a lancé le projet Village intelligent sur une période de 6 ans. Hier 27 mars, la composante 3 du projet, avec le financement de la Banque mondiale d'un montant de 100 millions de dollars, a été lancée. Elle consiste à mettre des dispositifs de paiement électronique pour faciliter les transactions jusque dans les milieux ruraux. Sidiku Boubacar, directeur général de la société e-Future, chargé de mettre en place à ces terminaux de paiement, explique au micro de Samira Rouafi.
Les cibles à travers ce projet, je dirais que c'est les commerçants, les petits détaillants, les coopératives agricoles. C'est vraiment un combat à faire pour que les commerçants adoptent eux-mêmes le paiement électronique. Et comme ça, les populations aussi vont pouvoir faire les paiements dans ces commerces-là. Alors, à travers ces moyens, il faut comprendre que la monnaie électronique, ça facilite la transparence dans la gestion d'un commerce. Ça permet aussi les clients qui ont déjà adopté, qui n'ont pas du cash, de pouvoir venir faire les achats dans votre commerce et de vous payer électroniquement. Il y a l'aspect connexion avec Internet et il y a aussi le mode de connexion sans Internet. On a disponibilisé les deux pour pouvoir atteindre les régions où Internet ne marche pas. Et souvent, même dans les grandes villes, on peut se confronter à des moments où Internet ne marche pas correctement.
Présent le magazine de ce journal, le département de Bulma est situé dans la zone désertique de la région d'Agadez. L'ensablement est une réalité dans cette partie du pays. Les cuvettes et les oasis sont de plus en plus menacées par le développement, souvent accéléré du phénomène d'ensablement. Commandant Hassan Younous Amadou, directeur départemental de l'environnement, explique le phénomène au micro de Abachari.
Monsieur le directeur, expliquez-nous le phénomène de l'ensablement dans le département de Bulma.
L'ensablement est un phénomène climatique normal, accentué par les actions humaines. On peut citer d'abord le déboisement, la coupe abusive du bois vert. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est aussi l'accroissement de la population. À travers tout le Niger, on sent que la population est en train de s'accroître. Et donc, Bulma n'est pas épargnée. Plus la population augmente, plus les gens ont besoin de terres pour cultiver. Et pour cultiver les terres-là, il faut d'abord déboiser aussi. Il faut élaguer. Tout cela, ça crée des brèches pour le passage du vent. Le troisième aspect, c'est aussi le surpâturage. Même si Bulma n'est pas une zone par excellence d'élevage, on ressent de plus en plus le passage des caravaniers là, qui quittent Ngimi pour aller à la Libye. Pendant leur passage là, plus ils durent sur un endroit, plus les animaux mangent là, les arbres. Et le dernier problème, c'est vraiment le changement climatique là, qu'on ressent chaque fois, la tendance des chaleurs et des inondations. Mais heureusement, ici, à Bulma, on n'a pas les inondations parce qu'il ne pleut pas. Mais ce qui nous dérange ici, c'est la chaleur. Plus il fait chaud, plus la nappe phréatique s'abaisse, plus les plantes n'arrivent pas à puiser l'eau qu'il leur faut. Plus les arbres meurent, plus ça crée encore des passages à l'ensablement.
Quelle est la situation actuelle de ce phénomène?
L'ensablement dans le département de Bulma est un phénomène très inquiétant. Il y avait un projet qui a fait la plantation des arbres là, au niveau du département de Bulma. Donc, ils ont fait une étude. Ils ont vu que de 1960 à 1986, les terres cultivables ont passé de 45 550 hectares à 28 700 hectares. Donc, une régression de 16 800 hectares due à l'ensablement continuel de la zone.
Quelles sont les actions que vous menez contre l'ensablement?
La première activité, c'est d'abord la sensibilisation. La sensibilité de la population à ne pas se donner à la coupe abusive du bois vert. Parce que plus on coupe le bois vert, plus on crée des brèches pour ensabler nos infrastructures socio-économiques telles que les puits, les points d'eau, les classes, les bâtiments et autres. On sensibilise les gens aussi à planter beaucoup d'arbres. Parce que plus les gens plantent des arbres, plus on peut mettre fin au phénomène d'ensablement que nous connaissons ici. Mais la sensibilisation n'est pas toujours efficace, vu que la zone est un peu éloignée. Les jeunes n'ont pas d'autres sources d'énergie. Donc les gens sont obligés d'aller couper le bois pour faire le bois de chauffage, le bois de service et le bois d'œuvre. Mais nous essayons de faire une autre activité qui est la fixation des dunes. Il y a d'abord la fixation mécanique qui consiste à utiliser les palissades avec les rachis de dattiers. Il faut aussi renforcer par la plantation d'arbres, des espèces locales qui sont adaptées.
Ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous le présenter. Restez avec nous pour la suite de nos programmes avec nos journaux en langue nationale. À partir de 18h15, à suivre le forum de Studio Kalungu sur l'impact de la consommation des boissons énergisantes sur la santé. Et n'oubliez pas, réécouter les journaux et les magazines de Studio Kalungu. Appelez les 325 gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs CFA par appel via la puce RTL. Vous voulez accéder au contenu WhatsApp de Studio Kalungu? Une seule action, envoyez un message au numéro 80 06 88 54.